Du lundi au vendredi sur France Inter.
Affaires sensibles.
Fabrice Drouet.
Quand l'histoire éclaire l'actualité.
Pierre Glaise, lui, est photographe indépendant. Proche de Greenpeace, une organisation que Paul Watson n'épargne pas. Il refuse ses méthodes et s'exprime aujourd'hui en son nom.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, depuis 1977, l'histoire de Sea Shepherd, ONG activiste pour la protection de l'écosystème marin.
Affaires sensibles.
C'est tout à l'heure sur France Inter, à partir de 15h.
Il n'y a pas qu'en temps de guerre que des populations doivent être protégées. Il n'y a pas qu'en temps d'occupation que crever de faim n'est plus une métaphore. Nous ne sommes pas dans un pays en guerre. Et pourtant, certains vivent dans des conditions de précarité intolérables. Alors faites un don à la Fondation de l'Armée du Salut, car certains combats méritent une armée.
France Inter aime
Gauguin l'alchimiste au Grand Palais. La grande exposition de l'automne à Paris. Une plongée exceptionnelle dans le passionnant processus de création de Paul Gauguin et dans sa quête incessante d'un moi sauvage. Découvrez la remarquable complémentarité de ses créations dans les domaines de la peinture, des arts graphiques et décoratifs. Gauguin l'alchimiste au Grand Palais jusqu'au 22 janvier. Une exposition France Inter.
La tête au carré sur France Inter, c'est maintenant et c'est avec Mathieu Vidard.
Ils naissent d'événements spectaculaires ou de catastrophes médiatisées. Partout sur la planète apparaissent de nouveaux lieux qui symbolisent des espaces de regroupement pour les individus ou les groupes. Ces lieux incarnent le local au cœur de la mondialisation. Place de la République après les attentats de Charlie, Times Square au cœur de New York ou encore la jungle de Calais. Ce sont des points de cristallisation de l'attention collective. Mon invité, le géographe Michel Lussault, les appelle les hyperlieux et leur consacre un ouvrage. C'est le dossier de la tête au carré pour découvrir donc ces nouveaux espaces habités. Et je vous signale que l'émission est aujourd'hui exceptionnellement enregistrée. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui, des chimpanzés fragilisés par le rhume des hommes.
Oui, les chimpanzés du parc national de Kibale en Ouganda attrapent le rhume et en meurent. On essaye de comprendre pourquoi avec la primatologue Sabrina Krief.
Et puis comme tous les jeudis, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne, consacrée aujourd'hui aux études scientifiques sur les effets de la pleine lune. C'est Fanny Bouillon qui réalise cette tête au carré préparée par Chantal Le Montagnier et Thomas Kalevitch.
La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Vous les appelez donc les hyperlieux et vous leur consacrez un ouvrage aux éditions du Seuil. Bonjour Michel Lussault.
Bonjour.
Quel point commun entre la place de la République à Paris, Times Square à New York ou la jungle de Calais ?
Eh bien d'abord, en première intention, le point commun, c'est que ce sont des endroits où des individus se rassemblent, se mettent au contact les uns des autres, des endroits où il y a une grande concentration d'individus, mais aussi de réalités sociales variées, et une grande intensité des interactions entre tout ce qui est rassemblé en cet endroit. Donc, intuitivement, l'hyperlieu, c'est d'abord un espace de rassemblement, j'allais dire d'assemblement aussi, pour jouer sur les mots. On se rassemble et on s'assemble, on compose une société locale à partir de cette agrégation. Et ce sont ces agrégations qui, pour moi, constituent aujourd'hui les points d'accroche des nouvelles géographies de la mondialisation que j'essaie de décrire.
Absolument, et c'est justement un grand voyage auquel vous nous conviez, parce qu'on va parcourir plusieurs endroits de la planète, de Venise à New York, en passant par justement Calais, les différents lieux comme également la place de la République, avec l'idée d'étudier donc ces nouvelles géographies de la mondialisation. Les auditeurs nous rejoignent donc avec les messages. Toutes les questions, je vous les transmets dans un instant. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Attraper un rhume lorsqu'on est un chimpanzé s'avère bien plus grave que lorsqu'on est un homme. Depuis 2013, les chimpanzés du parc national de Kibale en Ouganda toussent et éternuent de plus en plus. L'autopsie d'une femelle, Betty, décédée en 2013, révèle que les singes seraient infectés par le rhinovirus C, un virus normalement réservé aux hommes. On discute de cette transmission tout à fait inhabituelle avec notre invité, Axel Villard.
Oui Mathieu, on est avec la primatologue Sabrina Krief. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et vous connaissez bien ces chimpanzés de Kibale, puisque vous avez travaillé avec eux jusqu'en 2010. C'est la première fois que des cas de rhume sont documentés chez ces chimpanzés ?
Non, c'est pas la première fois. En fait, la mortalité chez les chimpanzés est très souvent attribuée à des infections respiratoires. Et dans cette communauté en particulier, que j'ai suivie donc, pendant plus de 10 ans, les rhumes étaient très fréquents.
Et quels sont les symptômes du rhume chez le chimpanzé ?
Alors, des éternuements, de la toux. Et ce qui est très particulier chez les chimpanzés qu'on suit, en particulier à Kanyawara, c'est cette infection respiratoire profonde qui fait qu'on voit vraiment des difficultés respiratoires, un peu comme un asthmatique qui aurait ses bronches complètement encombrées. Donc, ça vient vraiment des poumons, ce n'est pas uniquement des éternuements.
Est-ce que la source de la contamination, c'est l'homme là-bas pour ces chimpanzés ?
Alors, le travail de Tony Goldberg et de son équipe montre que la cause peut être identifiée. Et c'est la première fois en fait, qu'on met en évidence ce rhinovirus, le rhinovirus C, qui est donc a priori responsable de cette épidémie qui a surgi en 2013 et qui a tué 5 chimpanzés.
Parce que le rhinovirus C, chez l'homme, c'est un simple rhume, ça passe très vite ?
Chez les enfants, ça peut être vraiment grave, surtout quand ça se complique avec de l'asthme. Chez les adultes, ça peut être asymptomatique. Chez les chimpanzés, a priori, la grosse différence, c'est qu'ils ont un allèle, un gène particulier qui les rend sensibles à ce rhinovirus C, que les humains n'ont pas tous. En fait, certains ont une sorte de résistance à ce rhinovirus et donc peuvent survivre à ce qui peut tuer le chimpanzé.
Est-ce que ça fait longtemps qu'on a cette suspicion justement d'une transmission d'homme à chimpanzé sur le rhume ?
Oui, sur cette communauté, en fait, ça fait longtemps qu'on suspecte cette transmission. Moi-même, en fait, j'avais fait l'autopsie d'une femelle morte de maladie respiratoire qui s'appelait Nile. C'était une mère d'une trentaine d'années et elle avait ces mêmes symptômes. Pour notre part, on n'avait pas trouvé mis en évidence de virus particulier. Par contre, on avait mis en évidence une surinfection bactérienne à Klebsiella. Donc, une bactérie, en fait, qui s'est révélée être résistante à tous les antibiotiques qu'on a testés. Donc, il laisse aussi à penser que cette bactérie était d'origine humaine. Puisque, a priori, les chimpanzés ne se traitent pas avec des antibiotiques qu'on a à disposition.
Est-ce que ce virus est naturellement présent dans l'environnement du chimpanzé si on enlève l'homme ?
Non, théoriquement, ça semble être vraiment la cause principale, la présence et la proximité de l'homme, même si on sait que les rhinovirus existent chez d'autres espèces de primates. Mais celui-là en particulier, à cause de son séquençage, a révélé être vraiment très similaire à celui de l'homme, voire quasi identique. Donc là, ce cas d'étude en particulier montre que l'origine est très probablement l'homme, avec donc ce problème que l'homme peut être porteur sain. Et l'autre problème est que aussi ces virus sont très résistants, ils peuvent résister à la dessiccation. Donc simplement, si on éternue ou on crache à un endroit et que le chimpanzé y passe ou consomme un fruit qui pouvait être là, il peut se contaminer de cette façon-là.
Ça veut dire des précautions particulières pour vous, chercheurs sur le terrain ?
Alors, ça remet en cause pas mal des préconisations qu'on a habituellement, qui sont de porter des masques, surtout dans les périodes d'épidémie respiratoire dans les villages ou bien chez nos assistants de recherche ou nous-mêmes. Là, en fait, ça laisse à penser qu'il faudrait porter un masque tout le temps. C'est ce que font déjà certaines équipes de recherche.
Et pourtant, Sabrina Krief, quand vous êtes sur le terrain en Ouganda avec les chimpanzés, vous gardez toujours une distance avec les animaux parce que justement, vous faites des recherches qui sont non-invasifs par rapport à l'animal.
Exactement, donc on garde 8 à 10 mètres de distance avec les chimpanzés, justement pour éviter ces risques de contamination croisée, hein, parce qu'on sait aussi que les chimpanzés peuvent également nous contaminer. Mmh. Et l'objectif est vraiment de réduire le risque au maximum. Donc quand l'habituation, c'est-à-dire la proximité avec les chimpanzés, est encore peu importante, donc on est à 20 ou 30 mètres, évidemment les risques sont moins importants. Mais petit à petit, comme c'est le cas à Kanyawara, on arrive à ce que les chimpanzés aient confiance en nous, et parfois il leur arrive, eux, de venir très proche de nous, parfois de nous frôler. Et donc là, les risques sont vraiment importants.
Est-ce qu'il y a des risques que ce virus mette en péril les populations de chimpanzés de Kibale ?
Oui, bien sûr. En fait, nous, on a eu, donc, dans la communauté de chimpanzés où je travaille aujourd'hui, donc à Sébitoli, qui est celle qui est vraiment voisine de celle de Kanyawara, un épisode de toux qui entraînait aussi de la mortalité un an avant. Donc, il est très probable que ça puisse se propager au sein des chimpanzés entre communautés, puisqu'il y a des femelles qui migrent d'une communauté à l'autre. Et que, et bien évidemment, que ce soit les chercheurs, mais aussi les chimpanzés, qui parfois vont piller les champs des villageois, favorisent cette transmission. En fait, ce qui semble de plus en plus probable, c'est que cette proximité qui s'accroît avec la déforestation, la fragmentation de l'habitat, est une des causes de transmission de plus en plus fréquente des pathogènes d'origine humaine.
Votre collègue Tony Goldberg, dans une vidéo sur YouTube, abordait la possibilité d'une vaccination des chimpanzés, parce qu'il y a des chercheurs chinois qui ont trouvé un virus efficace contre le rhume. C'est une possibilité pour vous de vacciner des populations sauvages comme ça ?
Alors oui, effectivement, une équipe a montré qu'il semblait y avoir des bonnes pistes pour une vaccination contre le rhinovirus chez des macaques. Nous, aujourd'hui, on n'envisage pas la vaccination des populations sauvages, simplement pour la seule raison qu'on pense qu'ils sont capables aussi de développer une immunité qui leur permette de résister à cela, et que ces vaccinations sont relativement invasives. Et pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est envisagé, même autour de la question d'Ebola. Donc, bon, c'est en discussion. Certaines équipes sont pour, d'autres contre. En fait, on n'a pas encore vraiment statué. Là, on avait une mortalité d'environ 8%, puisqu'il y a 5 chimpanzés sur 56 qui sont morts. Mais évidemment, si on voyait une épidémie encore plus grave toucher les chimpanzés, peut-être qu'on essaierait d'y réfléchir.
Quelles sont les autres pathologies chez le chimpanzé, Sabrine Ekrieff, que vous avez étudié vous-même d'ailleurs ?
Alors, en fait, ce qui les touche aussi beaucoup, ce sont tout ce qui sont infections digestives, donc des diarrhées, des pathogènes qui touchent donc le système digestif. Après, comme on le disait tout à l'heure, c'est généralement des manifestations qu'on l'on voit, mais moi de mon côté j'ai travaillé sur le paludisme. Mmh. Et on a pu montrer, découvrir même deux espèces de plasmodium nouvelles qui peuvent toucher les chimpanzés, qui sont très proches de celles de l'homme aussi. Et puis en termes d'autres maladies, en fait, d'autres pathologies, on a montré récemment que les chimpanzés souffraient de malformations congénitales avec des malformations de type bec de lièvre, narines atrophiées. Donc ça, ce sont aussi des choses nouvelles, puisque c'est le seul endroit au monde pour le moment, à Sébitoli, où on a montré ce type de pathologie.
En lien avec les pesticides, hein. Vous avez fait un travail là-dessus. Hein.
En tout cas, on a montré qu'il y avait dans cette zone une exposition très forte à certains pesticides, néonicotinoïdes, glyphosate, etc. Par contre, la relation de cause à effet n'a pas encore été montrée. Malgré tout, ces deux faits semblent montrer vraiment qu'il y a de fortes présomptions pour que les pesticides soient la raison de ces malformations.
Et vous le dites, le rhume, les pesticides, c'est pas la seule menace qui pèse sur ces chimpanzés en Ouganda. Peut-être que ça va être la goutte de trop, ce rhume ?
Oui, en plus de tout ce qui est perturbation de l'habitat, il y a évidemment le braconnage aussi, et donc certaines populations sont d'autant plus sensibles à ces agressions venant de l'extérieur. On peut très bien comprendre que si un chimpanzé porte un piège pendant un an et a donc en plus une infection au niveau d'un membre, le rhume qui pourrait être bénin chez un autre individu, celui-là va le toucher tout particulièrement.
Vous étiez en Ouganda récemment, Sabrina Krieff?
Je rentre d'Ouganda il y a une quinzaine de jours et j'y repars dans 15 jours.
Il y a combien de chimpanzés là sur le centre exactement ?
Alors, dans le parc de Kibale, il y a entre 1000 et 1500 chimpanzés. La station où on travaille est au cœur d'une communauté qui en compte une centaine et donc voisine de celle de Kanyawara qui en compte environ 50.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir commenté cette étude donc sur le rhume de l'homme transmis aux chimpanzés. Merci Sabrina Krieff et Axel, à demain.
À demain.
Et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le chacal pourrait faire son apparition en France. C'est ce qu'indique un cliché pris par un piège photo en Haute-Savoie, pourtant habitué à vivre en Italie et en Suisse. Les spécialistes précisent que son arrivée était inéluctable, son comportement migratoire le poussant à se déplacer. Se nourrissant de plus petits animaux que son cousin, le loup, le chacal risque néanmoins d'être victime de la même réputation. Revenu naturellement en France via l'Italie en 1992, il sera en effet responsable de la mort de 10 000 brebis l'an dernier. Afin d'éviter des incidents, les associations qui défendent cet animal affirment qu'il est nécessaire de reconnaître juridiquement l'arrivée du chacal en France afin de le protéger. Le son le plus intense produit par un poisson, on le doit aux ébats assourdissants de Cynocyon orthonopterum, un poisson de la famille des cyanidés. Il a donc la particularité d'émettre un son très intense en période de reproduction. À chaque printemps, des millions d'individus se retrouvent dans le golfe de Californie et forment des bancs pouvant atteindre plusieurs dizaines de kilomètres. En étudiant son comportement, des chercheurs américains ont pu enregistrer le son émis par le groupe qui peut atteindre jusqu'à 150 décibels. C'est plus puissant qu'un avion au décollage. Ces poissons seraient même capables d'assourdir les phoques et les baleines. Et puis comme chaque année, la revue américaine Nature publie une sélection de photos qui ont attiré l'œil des éditeurs, de l'éclipse solaire totale aperçue aux États-Unis en août dernier jusqu'à l'extraordinaire grenouille de verre en gestation. Vous pouvez découvrir les meilleurs clichés de l'année sur la page Facebook de l'émission. Allez, dans un instant, nous parlons des hyperlieux.
a psychopath. Democrat lurking in the dark. This sucks, I'm the Kmart soda jerk. Served to trash, I kept the stash of coca candy straight from Japan. Hologram and she was never as near. Think you know what I need to get by?
Something for your mind. Something for your mind. Something for your mind. Something for your mind. Something for your
sociopath, my lovely prey, I'm a cliche. Make way, I'm in my Pepsi mood. Mama needs food, how about a barbecue? For us, the bourgeoisie, so carefree. Remember when we? I don't know why you need to get by.
Something for your mind. Something for your mind. Something for your mind. Something for your mind. Something for your
Super organisme avec Something for Your Mind.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Le géographe Michel Dussault est donc mon invité cet après-midi à l'occasion de la publication de son ouvrage Hyperlieu, les nouvelles géographies de la mondialisation. C'est aux éditions du Seuil dans la collection La couleur des idées. Michel Dussault, vous êtes professeur d'études urbaines à l'Université de Lyon et les auditeurs nous rejoignent avec les messages sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Pourquoi est-ce que vous pratiquez la géographie, Michel Dussault? Qu'est-ce que vous essayez de comprendre au fond au travers de votre discipline?
Ah, je crois que dans toute démarche, il y a au tout début une énigme, quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre et qui vous fascine. Mm-hmm. Moi, ce qui me fascine et que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est l'espace de vie des humains.
Ouais.
Voilà, c'est-à-dire le fait que, alors que nous sommes très attentifs à la réalité de notre dimension temporelle, c'est-à-dire nous savons que nous vivons dans le temps. Nous sommes souvent beaucoup moins attentifs au fait que nous vivons avec et dans l'espace et que nous ne pouvons pas plus nous défaire de notre espace que nous ne pouvons nous défaire de notre temps.
Ouais.
Et pour moi, c'est l'énigme fondatrice. Et depuis maintenant presque 30 ans, j'essaie de trouver les situations qui me permettent d'essayer de comprendre ce commerce étrange des individus avec leur espace de vie.
Alors, vous parcourez le monde, justement, pour essayer d'observer tous ces espaces. Alors là, on va parler en particulier de ces hyperlieux que vous avez bien observés dans un certain nombre d'endroits de la planète et qu'on trouve absolument partout. Est-ce que d'abord ce phénomène est récent? Cette concentration, on en a parlé très vite tout à l'heure, justement, de personnes, de groupes au sein d'un même endroit?
Je pense que c'est à la fois très ancien et très nouveau dans les modalités que cela prend aujourd'hui. Très ancien parce que je crois qu'il n'existe pas de société humaine qui n'ait pas été structurée par des lieux où se croisaient les individus, les flux, les marchandises, où se concentraient les idées, les principes de création, les cultures, les formes de pouvoir. On peut retrouver cela sans doute dès la préhistoire et à des grottes où l'on retrouve des peintures rupestres. Ces grottes, dans une certaine mesure, étaient déjà des lieux, des archéolieux si l'on veut, où les sociétés pouvaient structurer leur organisation et définir leur fonctionnement. Mais je pense que la mondialisation contemporaine donne à ces lieux des caractéristiques très différentes. Et en particulier parce que il faut rappeler une chose qu'on oublie souvent de rappeler. Aujourd'hui, nous avons à organiser notre vie en commun à l'échelle de la planète Terre tout entière, chaque jour, et avec 7,5 milliards, voire 8 milliards de nos congénères. Ça n'est pas la même chose de faire société à 100 millions, comme pendant la préhistoire, à 1 milliard, comme à la fin du 19e siècle, ou à 8 ou 10 milliards d'individus. Il y a un effet de taille. Il faut donc que nous inventions des espaces de vie pour 8 à 10 milliards de personnes. Et puis, ces personnes, elles vivent aujourd'hui des genres d'existence qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce que nous connaissions il y a encore 50 ans. Pensons tout simplement à l'accroissement des mobilités. Pensons tout simplement au développement des télécommunications. Donc, l'hyperlieu, pour moi, c'est une tentative de reprendre le vieux concept de lieu qu'on trouve déjà chez Aristote et essayer de le convertir en quelque sorte à la situation qui est la nôtre dans les sociétés contemporaines mondialisées.
Ouais. L'idée, c'est quoi alors? C'est de mettre un peu de local dans une échelle globale, mondialisée, qui pourrait en apparence être aussi le synonyme de l'uniformisation des choses?
L'idée est une idée qui renvoie à une prise de position par rapport à la façon dont les sciences sociales doivent tenter de rendre intelligibles les réalités de société. Finalement, les sciences sociales, nous sommes là dans une émission scientifique, donc on peut un peu parler du projet des sciences sociales. Les sciences sociales, à leur manière, font ce que font les sciences expérimentales qui veulent comprendre l'organisation de la matière ou l'organisation du vivant. Nous voulons comprendre l'organisation et le fonctionnement de cette réalité étrange qu'est une société. Eh bien, il y a une prise de position dans ce livre, c'est que les réalités de société sont toujours équivoques. Elles ne sont pas simples, elles sont complexes, elles sont, si vous voulez, équivoques et nos relations à ces réalités sont ambiguës. Donc ce que j'essaye de montrer, c'est que très souvent, on a tendance à dire que le monde s'uniformise. Moi, je pense que effectivement, elle s'uniformise, mais qu'en même temps, dire cela, ça n'épuise pas toute la réalité du monde. Parce que le monde, dans le même temps, se différencie de plus en plus en espaces locaux qui deviennent des espaces de plus en plus forts, de plus en plus attracteurs de la vie sociale. Mais je ne veux pas non plus dire, non, le monde ne s'uniformise pas, en réalité, il se localise. Vous voyez, je tomberai dans un autre excès. Ce que j'essaie de faire, c'est de montrer que les deux choses sont en tension dynamique. C'est la tension entre l'uniformisation, la globalisation et la différenciation, la localisation qui constitue peut-être la réalité première de notre société.
C'est la théorie du tout finalement, entre la relativité et le quantique, quasiment.
C'est une sorte de théorie du tout, en tout cas c'est une sorte de théorie qui annonce que lorsque nous pensons global, par exemple changement global, nous pensons bien sûr la planète Terre dans son entièreté, mais nous devons aussi penser local. Mais quand nous pensons hyper local, nos hyperlieux, Place de la République, un shopping mall, un aéroport, nous devons aussi penser global. Il ne faut pas opposer les deux échelles, mais plutôt comprendre leurs interactions permanentes, j'allais dire presque leur dialogue permanent.
Voilà, et ces hyperlieux réunifient au fond hein, ces choses dont vous nous parlez. Alors, incarnation précisément d'un hyperlieu, pour commencer à donner quelques exemples concrets, c'est Venise, ville par laquelle vous commencez justement votre voyage, puisqu'on parcourt un certain nombre de pays et de lieux. Septembre 2014, vous êtes sur la place Saint-Marc. Pourquoi cet endroit et qu'est-ce qu'il vous raconte, vous, le géographe?
Deux réponses à cette question. D'abord, je pratique une géographie qui s'appuie pratiquement toujours sur une très importante observation des lieux et des situations, et une observation dont je ne cache pas au lecteur le fait que je suis engagé dans cette observation.
Avec une fascination.
Avec une fascination. Le géographe est un spectateur engagé, comme dirait l'autre, des choses qu'il observe. Après, il faut être capable de les mettre à distance par la pensée rationnelle. Deuxième chose, Venise me frappe parce que j'y vois une sorte d'emblème de ce que j'essayais de chercher, de ce que j'essayais de comprendre. C'est-à-dire un endroit finalement très localisé, c'est tout petit Venise. Et là où se concentrent les touristes, c'est encore plus petit.
La place Saint-Marc.
Voilà, c'est minuscule à l'échelle du monde. Et pourtant, quand on est là, on a l'impression que l'entièreté de la complexité du monde s'y retrouve. Toutes les contradictions du monde s'y retrouvent. Les contradictions sociales, les contradictions économiques, les contradictions politiques, les contradictions culturelles, les contradictions environnementales. Venise est peut-être aujourd'hui un des lieux où on peut le mieux comprendre la fragilité des établissements humains par rapport à la question de l'Anthropocène.
Eh bien justement, écoutez ce reportage qui est passé il y a quelques jours à peine, c'était le 20 février, sur France Inter, reportage de Mathilde Imberti, au sujet de Venise.
En cette période de carnaval, les Vénitiens slaloment entre les valises à roulettes et ruses pour contourner les ruelles saturées, tout en grimpant dans un vaporetto. Cristina Romieri de l'association Italia Nostra dit son exaspération.
C'est invivable, on a même du mal à se rendre au travail. Et pour déplacer tout ce monde, les bateaux circulent deux fois plus. Cela accentue la houle qui crée des dommages sur les fondations. Sans même parler des bateaux de croisière qui arrivent jusqu'ici. Les rives sont fragilisées, il y a même des écroulements.
L'UNESCO a menacé de placer Venise sur la liste des patrimoines en péril. Les autorités ont dû s'engager à réfléchir à des solutions. Un système de réservation obligatoire, par exemple, pour les groupes de touristes. Les associations réclament une inversion de tendance, les logements aux Vénitiens. Matteo Secchi du collectif Venezia.com.
Il n'y a plus de place pour nous. Les annonces immobilières sont réservés aux non-résidents. Pour inverser cette tendance, on pourrait défiscaliser les locations en faveur des Vénitiens. Les vrais.
Les manifestations s'enchaînent à Venise. La dernière en date samedi a vu défiler des pandas face à la place Saint-Marc pour symboliser une espèce en voie de disparition. Les Vénitiens. Venise, Mathilde Imberti, France Inter.
Voilà Michel Lussault, intéressant ce reportage parce que vraiment il incarne ce que vous décrivez de Venise, c'est-à-dire cette ville-monde au fond et puis cette ville sans Vénitiens quasiment aujourd'hui, hein, puisqu'ils sont quasiment exclus de leur propre ville.
Oui, c'est intéressant de montrer qu'il n'y a peut-être plus de Vénitiens parce que nous sommes tous des Vénitiens dans une certaine mesure. Il faut le prendre non comme un jeu nouveau, mais presque comme une assertion. Nous sommes tous, en tout cas potentiellement des Vénitiens, parce que Venise, c'est une fenêtre où l'on peut lire et comprendre le monde. Et l'on voit bien aussi d'ailleurs tous les dangers culturels et politiques qu'il peut y avoir dans ces processus d'hyperlocalisation. C'est très frappant d'entendre ce Vénitien invoquer les vrais Vénitiens et parler de nous par opposition à eux, les touristes. Et dans mon livre, j'insiste bien sur le fait que très vite se créent des tensions entre eux et nous qui peuvent avoir une portée politique assez dévastatrice. Peut-être qu'il faudrait là aussi changer les manières de voir, c'est-à-dire comprendre que finalement le « eux » et le « nous » classique qui permettait d'opposer jadis les inclus d'un lieu, et ceux qui finalement étaient un peu extérieurs et qui de temps à autre pouvaient croiser ce lieu, peut-être faudrait-il inventer une manière d'être au monde qui ne soit plus tout à fait de cet ordre. Peut-être finalement faudrait-il admettre que tous les lieux nous appartiennent et que nous appartenons à tous les lieux du monde. Une sorte de nouvelle citoyenneté fondée sur cela. Et il y a du travail à faire.
Ah, mais surtout en ce moment, vu le contexte,
surtout en ce moment, mais
je
crois que les tensions identitaires, que prouve-t-elle ? Elle prouve l'intensité de ce qui est en train de changer. Elle prouve que toutes les cartes classiques de la géographie, vous savez, ces cartes que nous avons tous apprises à l'école, ces cartes stables où existaient des frontières stables,
elles explosent totalement.
Ces cartes explosent totalement. Alors, il y a peut-être une manière de le déplorer. Moi, je préfère essayer de comprendre les problèmes que ça pose et de fournir des cadres de lecture de ces phénomènes pour peut-être progresser dans nos réflexions politiques, parce que comme tout travail de sciences sociales, il y a aussi une dimension
absolument
politique.
Voilà, et ça, la géographie a des choses à nous apporter, hein, puisque c'est l'objet de cet ouvrage, Les Hyperlieux. On en découvre d'autres avec vous dans un instant. Michel Lussault, vous êtes l'invité de La Tête au Carré.
Seulement sommes-nous des sauvages qui, au bord de l'eau, brûlent leur feuillage, rêvent d'ambition, de colère, de rage, d'effrayer les loups juste après l'orage. Tu cherches sans fin le sens de l'histoire, va creuser un abri, parie sur l'espoir.
C'est chevaleresque avec l'adversaire sur France Inter.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Michel Lussault, Hyperlieux, les nouvelles géographies de la mondialisation, cet ouvrage qui paraît au Seuil. Alors on le disait tout à l'heure, hein, ces hyperlieux, ce sont pourquoi pas des grands centres commerciaux, des gares, des aéroports, et puis des lieux de rassemblement, parfois incarnés par des événements très médiatisés. On pense par exemple à la place de la République, donc des lieux quand même de l'urbanité. Est-ce qu'on trouve ces hyperlieux dans le milieu rural ou absolument pas?
On peut les trouver dans tout milieu, notamment cette catégorie d'hyperlieux que j'appelle des lieux événements.
Ouais.
Pensons à ce festival de musique dans le désert du Nevada qui crée par le regroupement de plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque année une ville, ou ces grands lieux de pèlerinage en Inde qui créent aussi leur propre ville pendant quelques semaines. Potentiellement, l'hyperlieu est partout à partir du moment où il rassemble des personnes qui viennent ici rechercher une expérience. Hein, j'insiste beaucoup sur le fait que les hyperlieux sont des endroits où l'on a l'expérience de quelque chose et on vient aussi rechercher une affinité, c'est-à-dire on est là pour faire la même chose que d'autres. Alors cette affinité, ça peut être commercer, ça peut être participer à une grande fête, à Times Square, la grande fête du passage au Nouvel An, ça peut être prendre l'avion, ça peut être revendiquer contre un pouvoir politique. Quand on place Taksim, on se regroupait pour protester contre le Premier ministre turc, ou place des indignés à Madrid, ou à Occupy Wall Street, ou place de la République à Paris, après les attentats contre Charlie. L'important, c'est qu'on se ressemble et donc on s'assemble. Donc c'est pour ça que je dis que ces hyperlieux sont affinitaires. Vous savez, affinitaire, c'est un mot qui vient du latin et ça veut dire au départ la famille. Dans l'hyperlieu, je suis familier de ceux qui sont autour de moi. Donc c'est une manière aussi de composer sa relation à l'autre.
Et il y a une idée aussi de faire sens, c'est-à-dire de se retrouver pour une sorte de communion aussi, hein, dans ces lieux.
Oui, c'est ce que j'appelle la dimension de l'expérience. C'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on a voulu croire, pratiquer un centre commercial, c'est aussi une expérience et ça fait sens. D'ailleurs, j'insiste bien aussi pour que l'on essaie de comprendre que ces hyperlieux, contrairement à ce que l'on voulait penser, sont des hyperlieux où la différence sociale et la diversité sociale ne sont pas gommées dans les centres commerciaux. Commerciaux aujourd'hui aux États-Unis, par exemple, paradoxalement, ce sont des endroits où l'on éprouve plus la diversité sociale et raciale que dans l'espace public.
Oui.
Là où on continue de trouver des noirs et des blancs ensemble, eh bien, c'est dans les centres commerciaux beaucoup plus que dans les rues.
Vous citez des exemples, dans le Minnesota, par exemple, aux États-Unis, et puis vous dites, les centres commerciaux américains, ils font presque figure de lieux un peu désuets maintenant par rapport au gigantisme et à l'inventivité de lieux comme en Asie, par exemple. On invente ces lieux aussi de façon totalement délirante.
Oui, ce livre n'est pas le livre d'un ravi de la crèche. Je suis aussi parfois très critique par rapport à l'évolution de certains hyperlieux, notamment ceux de Dubaï, où il y a une sorte de délire de puissance, d'emphase sur la technologie. Des hyperlieux comme les centres commerciaux de Dubaï ou l'aéroport de Dubaï sont insensés au plan de l'argent qu'il faut pour les développer, de la souffrance des travailleurs immigrés qui sont à la base de l'existence de ces lieux, des consommations d'énergie nécessaires à climatiser ces espaces en plein désert. Ce sont des lieux qui sont finalement socialement extrêmement problématiques, économiquement très problématique, environnementalement très problématique. Donc, quand on fréquente ces lieux-là, quel est notre statut d'acteur politique? Il y a aussi cette question, je pense, à se poser, sans vouloir empêcher personne d'aller à Dubaï. Mais
d'aller faire du ski à Dubaï, par exemple.
Ou on peut peut-être aller faire du ski ailleurs, et peut-être d'ailleurs ne pas vouloir faire du ski. Mais il y a en tout cas quelque chose de très troublant dans l'apparition de ce type d'hyperlieux dans la surenchère. Et c'est aussi pour ça que dans ce livre, j'essaie d'étudier des hyperlieux en réaction à ces hyperlieux-là.
Ouais, les ZAD, par exemple. On en parlera tout à l'heure avec vous, Michel Dussault. Allez, on part à Times Square, c'est le réveillon. Tout le monde a vécu, évidemment, cela devant sa télévision. Avec ces images-là, c'était le 1er janvier 2016.
C'est l'un des décomptes les plus suivis à travers le monde. Celui de New York, où le maire de la ville, Bill de Blasio, a fait descendre la célèbre boule à facettes pour marquer l'arrivée de la nouvelle année. Un million de personnes ont assisté aux festivités à Times Square, un événement sous haute sécurité, encadré par 6000 policiers.
Michel Dussault, New York et Times Square, encore un lieu qui vous fascine d'ailleurs au passage, parce que c'est vrai que là on a vraiment une concentration et quelque chose qui se passe aussi dans l'image, parce que vous dites à quel point, et ça on le découvre aussi, ce lieu a été confié aussi à des entreprises privées, Disney en particulier, ce qui en fait un lieu totalement hors du temps aussi, hein.
Oui, c'est un lieu étrange, puisque c'est un lieu où l'espace public a été opéré, en quelque sorte, comme des compagnies aériennes opèrent des vols, a été opéré par un acteur privé, d'ailleurs une série d'acteurs privés regroupés une entité spéciale. Et la ville de New York leur a concédé, en quelque sorte, le design et la requalification d'un lieu qui allait de mal en pis depuis des décennies. Et c'est tout à fait fascinant de voir comment Times Square, qui a été un des grands lieu de New York avant la crise de 1929, qui a périclité, même dépéri entre 1930 et 1970, qui était le lieu le plus mal famé, peut-être de tout New York et d'une bonne part des villes américaines, de nouveau en 30 ans est devenu un hyperlieu mondial. C'est là où il y a la fête la plus célèbre de passage au Nouvel An. C'est une sorte de pèlerinage laïque, en quelque sorte, qui regroupe plus d'un million et demi de personnes sur place, qui est télévisé, et ça m'a intéressé d'essayer de comprendre comment on était repassé à cet hyperlieu qui est une scène de théâtre.
C'est un plateau de télévision d'ailleurs.
C'est un plateau de télévision d'ailleurs, je le dis plus qu'une scène de théâtre, parce que ceux qui connaissent Times Square,
ce sont des images, des écrans géants.
Le bord de cette place qui est finalement assez quelconque architecturalement, ce sont des écrans géants de plus en plus immenses qui bombardent le spectateur d'images maintenant en plein jour. Il y a quelque chose de très étrange et en même temps de très emblématique de notre mondialité. Très emblématique de cette mondialité, on y trouve le meilleur, le pire et l'ordinaire.
Donc c'est une vraie vitrine de la mondialisation, quoi, finalement.
Oui, c'est presque plus qu'une vitrine. Je parlerai plutôt d'une sorte de page internet. C'est pour ça aussi que je parle d'hyperlieu. C'est-à-dire que nous sommes dans une relation à l'espace et au monde qui est de même type que la relation que nous avons à internet lorsque nous ouvrons une fenêtre sur notre ordinateur. Ouais. Lorsque nous ouvrons une fenêtre sur notre ordinateur, nous sommes dans cette fenêtre, mais en même temps nous savons que dès que nous allons cliquer quelque part, nous allons pouvoir parcourir le réseau du web jusqu'à son extrémité. Et d'ailleurs, il n'y en a pas de cette extrémité. Donc, il y a quelque chose de très troublant dans les hyperlieux, c'est cette collision entre le fait que je suis absolument là où je suis et en même temps je suis potentiellement toujours ailleurs, toujours connecté à l'ensemble du monde, en tout cas potentiellement.
Bah Michel Lussault, si certains de nos auditeurs sont comme vous fascinés par Times Square, justement depuis leur bureau, ils peuvent cliquer, enfin se connecter sur un site qui s'appelle EarthCam, vous le connaissez, et qui permet justement de voir à toute heure du jour et de la nuit, vraiment en direct, avec le son de la ville en plus, ce qui se passe par exemple à Times Square. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette évocation des hyperlieux. Nous irons sur la place de la République juste après les attentats de Charlie. Radiohead, c'était Creep.
La tête au carré sur France Inter.
Nous sommes ici, place de la République. Alors la foule est extrêmement dense, évidemment, et minute par minute, elle grossit de plusieurs milliers de personnes. C'est vraiment très spectaculaire. C'est même assez impressionnant. J'ai le sentiment que les gens qui sont dans cette manifestation n'ont absolument pas peur. Comme si ce peuple de France qui est debout et qui manifeste aujourd'hui est plus fort que tout. C'est assez impressionnant de vivre ça de l'intérieur.
On entend les applaudissements, hein. On entend la foule qui applaudit ses chefs d'État.
Voilà, 11 janvier 2015, reportage sur iTélé, Michel Lussault, et évidemment l'emblématique place de la République pour incarner aussi ces hyperlieux dont vous parlez dans cet ouvrage qui paraît au Seuil. Pourquoi tout d'un coup tout le monde a convergé vers la place de la République juste après les attentats de Charlie?
Oui, c'est une question encore assez étrange, et c'est une question à laquelle il est peut-être difficile de répondre. Moi, j'y étais, je le décris, juste quelques heures après ces attentats, et c'est une expérience dont j'ose dire qu'elle était pour moi bouleversante, à la fois en tant qu'individu, en tant que géographe, parce qu'il y avait là une intensité du lien, et une intensité du lien à chacun d'entre nous, mais aussi une intensité du lien de chacun à cette place de la République et à ce qu'elle représentait.
Alors, il y avait la proximité les bureaux de Charlie aussi.
Bien sûr, mais il y avait aussi la proximité et l'évidence du symbole de la place de la République. Il y avait quelque chose que je n'ai jamais vécu ailleurs à d'autres moments, je l'écris dans le livre, quelque chose qui m'a renvoyé à cette grande notion de la philosophie antique qui est la notion de philia, hein, c'est-à-dire d'amitié civile. Il y avait quelque chose de cet ordre que l'on ne rencontre que quelques fois dans sa vie, et je me suis dit cet espace va devenir un lieu d'attention mondiale pendant quelques temps, et ça laissera des traces, et je crois que c'est le cas. Ça a été un lieu d'attention mondiale et ça a laissé des traces pour ceux qui y ont participé, et c'est devenu une référence d'ailleurs, même si c'est pour regretter que l'esprit de Charlie se soit perdu, ce dont je ne suis pas tout à fait certain. En tout cas, c'est devenu un moment, un espace-temps, un moment de lieu qui a marqué l'histoire contemporaine de France et qui a peut-être marqué même une histoire politique du monde.
Avec cette attractivité, hein, effectivement, assez incroyable de Charlie. Certains hyperlieux, dit Constance sur franceinter.fr, ne sont-ils pas des juxtapositions de solitude? Autrement dit, ces lieux, est-ce qu'ils favorisent les rencontres, les échanges, la mondialisation des espaces de solitude?
Alors, c'est une bonne question. Objectivement, aujourd'hui, les recherches nous montrent que dans la plupart des cas, les hyperlieux sont plutôt des espaces où l'on compense les effets de la solitude. La solitude ne naît pas des lieux. La solitude, elle naît de l'évolution des structures sociales et familiales qui font que, notamment dans les grandes villes, un nombre extrêmement important de personnes vivent seules. Et toutes les études qui ont été faites, notamment à New York, par un très grand sociologue américain qui s'appelle Eric Klinenberg, qui a fait un très beau travail sur la solitude, montrent que justement, ce que je nomme les hyperlieux sont plutôt les espaces où l'on vient essayer de trouver une relation à l'autre. Alors, deuxième remarque.
C'est ce que dit Constance, justement, dans sa question. Est-ce que ça favorise les échanges et les rencontres?
Alors après, il faut aussi peut-être avoir une conception plus large que l'on a d'habitude des rapports sociaux. Très souvent, on estime qu'il n'y a pas de relation sociale lorsqu'il n'y a pas d'interaction langagière. Et moi, je plaide dans ce livre, à la suite de grands anthropologues et de grands ethnologues français et anglais, sur le fait que l'interaction ne se résume pas à l'interlocution. Mmh. C'est-à-dire, être coprésent, sans même échanger verbalement, c'est déjà une interaction sociale.
C'est la question des corps.
Bien sûr.
Parce que là, on fait corps, justement.
Bien sûr, on fait corps. Et la place de la République, après Charlie, il y avait véritablement cette idée de faire corps, d'abolir les distances, de créer véritablement une sorte de peuple assemblé sur cette place de la République.
Oui. Michel Lussault, alors autre exemple intéressant, contre-exemple d'ailleurs, ce sont les espaces de refus avec les contre-lieux, des lieux contre des contre-lieux. Justement, les zadistes incarnent parfaitement aussi ces nouveaux territoires. Alors par exemple, Notre-Dame-des-Landes, là aussi exemple très, très emblématique. Ce sont ces zones à défendre, les ZAD, on peut le rappeler. C'est quoi finalement? Ce sont des nouvelles formes de contestation aujourd'hui?
Oui, j'ai d'abord voulu définir l'hyperlieu à partir d'exemples où cela me semblait évident que je parviendrais à découvrir des principes. Venise, Times Square, des grands aéroports, des grands shopping malls. Et ensuite, j'ai découvert 5 principes, je laisse le lecteur les découvrir, et je me suis dit, mais ces principes, puis-je les retrouver ? Y compris là où on peut avoir l'impression qu'on est à l'opposé de ces hyperlieux urbains, ubiquitaires, très standardisés, ces hyperlieux fréquentés par les vainqueurs de la mondialisation.
Ouais, très connectés.
Très connectés. Donc je suis allé travailler sur des lieux d'occupation, les places publiques, Occupy Wall Street, Nuit Debout, les occupations par les indignés, et je suis aussi allé travailler sur les ZAD, mais aussi sur des camps de réfugiés ou des camps de migrants. Et j'ai retrouvé mes principes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans des endroits où on conteste l'ordre mondial, eh bien, en fait, on participe de cette mondialisation. Oui. C'est-à-dire, j'ai confirmé ce que des grands anthropologues du culturel comme Arjuna Padurai avaient montré, c'est que même les altermondialistes sont les enfants de la mondialisation. Oui. Et c'est ça qui m'a intéressé dans cette analyse.
Oui. Justement, Calais, la jungle de Calais, de quel côté se situe alors justement cet hyperlieu? Est-ce que c'est un lieu de contestation, un lieu de rassemblement?
Eh bien les deux, c'est-à-dire que la jungle de Calais, c'est à la fois un hyperlieu où le monde entier se croise. Je montre que Calais, c'est un monde qui s'installe dans un espace français, et c'est en même temps un lieu à partir duquel des contestations politiques ont pu être pensées, conçues, énoncées. Et effectivement, je termine le livre par plus d'une centaine de pages où je me dis, mais finalement aujourd'hui, le renouveau de la démocratie, d'une démocratie dont on dit souvent qu'elle est en crise, ne peut-il pas passer par la capacité d'individus à investir des lieux, à en faire les plateformes de leurs revendications politiques, finalement une ZAD, si l'on met de côté ce que cela peut avoir d'irritant. Eh bien, une ZAD, c'est une plateforme politique. Ouais. C'est un endroit où des individus se rassemblent pour dire « nous sommes des citoyens et nous voulons pouvoir agir sur le monde tel qu'il existe ».
Ce sont les nouvelles communautés vraiment du 21e siècle
hein ? En tout cas, je fais l'hypothèse que les hyperlieux, mine de rien, ce sont peut-être des endroits à partir desquels on peut envisager un renouveau de la politique et un renouveau d'une citoyenneté qui ne serait pas limitée simplement à l'exercice du vote tous les 5 ans. Mmh. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une aspiration des citoyens à voir... Voilà, une citoyenneté active et une citoyenneté qui soit une citoyenneté où on retrouve aussi les vertus de la mésentente, les vertus du litige. Nous ne sommes pas nécessairement tous d'accord et pour la démocratie, c'est tant mieux.
Et ça, c'est le géographe, là encore, hein, qui nous le dit.
Parce que la géographie, c'est une science politique.
Exactement, et ce sont vos observations. Qu'est-ce que vous observez de notre monde aujourd'hui, Michel Lussault ? Parce que quand on vous écoute, on se dit qu'on est quand même en train de vivre... un sacré bouleversement, avec des frontières qui explosent, qui s'effacent, vous le disiez tout à l'heure, avec une nouvelle façon d'envisager aussi la démocratie, de faire entendre la voix du peuple, vraiment. On est à un moment charnière là de notre civilisation.
Oui, c'était mon livre précédent qui s'appelait « L'avènement du monde » où j'essayais de montrer que le monde que nous vivons n'a rien à voir avec celui que nous avions vécu jusqu'en 1950 et qu'il faut aussi accepter que nous n'avons plus de pensée sur étagère. Nous n'avons plus les éléments intellectuels qui nous permettent de comprendre les situations que nous vivons. Un peu comme si des scientifiques continueraient de vouloir étudier la matière avec simplement une physique du XVIIe siècle. Eh bien, ça ne marcherait pas. Et il faut que les sciences sociales se mettent au travail pour inventer les nouveaux cadres théoriques conceptuels qui permettent de penser ce monde et de faire que ce monde soit vivable et habitable par tous, parce que à un moment ou à un autre, les exigences d'habitabilité du monde, les exigences de justice sociale, les exigences de faire en sorte que chacun trouve sa place dans ce monde en mouvement sont des exigences éthiques et la science n'est jamais en dehors des exigences éthiques.
Est-ce qu'on revient au principe classique de l'agora au fond, où se faisait la politique et la philosophie?
En tout cas, je pense que c'est intéressant de voir qu'en cette période de vie numérique intense, de télécommunications, de réseaux sociaux, de plus en plus souvent, les individus ont besoin de lieux physiques où se retrouver. Hein ? C'était cela aussi qu'on observait à Nuit Debout, à Occupy Wall Street, sur la place de la République. Mais c'est aussi ça qu'on voit dans les grandes fêtes, dans les grands festivals, dans les centres commerciaux. Les gens ont besoin de s'agréger, de se retrouver, de se toucher, de voir que les autres sont des corps, de comprendre leurs relations aux matières. C'est peut-être aussi dans ces lieux-là qu'on va le mieux comprendre qu'il faut changer nos relations à l'environnement.
Mais il y a une formidable dynamique dans ce que vous décrivez. C'est-à-dire qu'on sent à la fois un monde qui s'écroule totalement, mais il y a quelque chose qui renaît déjà aujourd'hui, qui s'invente, qui se crée en permanence, là.
Il y a quelque chose qui s'invente et qui renaît, et je pense qu'il faut plutôt essayer de comprendre cette naissance-là, plutôt que de recycler de vieilles pensées nostalgiques, parce qu'elles ne correspondent plus du tout, tout simplement, à la réalité des vies sociales qui sont celles que nous avons à mener, j'allais dire, à risquer au jour le jour.
Bon, il faut que les géographes se fassent plus entendre, donc.
Oui, bien sûr, parce que nous sommes tous cohabitants du monde. Voudrions-nous être purement français, purement breton, purement habitant du Bade-Wurtemberg, en fait nous aliénerions la possibilité de comprendre que nous sommes aussi cohabitants du monde. Nous ne devons pas oublier cela. Et je crois que ceux qui oublient que le monde est en nous autant que nous sommes dans le monde, eh bien ne rendent pas vraiment service aux sociétés qu'ils prétendent défendre.
Je suis sûr que les auditeurs, en vous entendant, comprennent pourquoi nous avons tant aimé votre livre « Hyperlieux, Michel Lussault, les nouvelles géographies de la mondialisation ». C'est à découvrir aux éditions du Seuil, dans la collection « La couleur des idées ». Merci beaucoup
d'être
revenu.
France Inter, santé polémique, avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu. Est-ce que ce son vous dit quelque chose ?
C'est le début d'une chanson très connue.
Ah oui, surtout avec la musique qui commence derrière. C'est le Thriller de Michael Jackson, c'est
exactement.
Ça,
hein ? Ouais. Un des clips les plus vus au monde, qui démarre par un film d'horreur montrant un loup-garou hurlant à la pleine lune. Mmh. Eh bien justement, l'impact de la pleine lune sur l'espèce humaine est un véritable marronnier scientifique.
Ah oui, alors c'est de la science ou du folklore d'ailleurs ? Vous avez des infos là-dessus ?
Écoutez Mathieu, c'est pas évident la réponse. Hein. Alors on sait par exemple que l'augmentation des accouchements lors de la pleine lune est une légende. Mmh. Pour ce qui est du sommeil, on dispose également d'une synthèse de différents travaux qui ne confirment confirme pas un effet lunaire sur nos nuits, mais je vais vous parler aujourd'hui d'une étude particulière qui met en évidence un impact de la pleine lune sur le sommeil et que je trouve assez convaincante.
Pourquoi convaincante ?
D'abord, c'est une véritable étude expérimentale, réalisée sur 32 sujets dormant dans une pièce sans fenêtre. Leur électroencéphalogramme était enregistré en continu, ainsi que d'autres données objectives comme le taux sanguin de mélatonine, vous savez, cette hormone de l'endormissement. Alors, l'équipe suisse du docteur Cajochen a constaté une diminution de 20 minutes de la durée du sommeil lors de la pleine lune, et des variations, le taux sanguin de la mélatonine évoluant dans le même sens. Et malgré le petit nombre de sujets ayant participé à l'étude, ces différences sont significatives, c'est-à-dire que la probabilité pour qu'elles soient liées au seul hasard est inférieure à 5%. Mais il y a surtout un élément très important qui donne du poids à cette publication et permet à mon sens d'être quasiment sûr qu'aucun biais ni fraude, volontaire ou non, n'interfère avec ces conclusions.
Et lequel ?
Eh bien, cette étude n'a pas été réalisée dans le but d'étudier l'impact de la lune sur le sommeil.
On peut comprendre comment ça.
Et non. En fait, elle a été réalisée pour autre chose, pour étudier les variations de l'activité cérébrale et biologique sur un cycle de 24 heures chez des sujets volontaires et bien portants. Et c'est des années plus tard que les chercheurs autour d'un café ont eu l'idée de réutiliser leurs données pour évaluer l'impact lunaire, mais cette fois en reprenant la date des enregistrements et donc pour obtenir la phase lunaire correspondante. Et alors cette réutilisation de données déjà publiées, ça garantit une neutralité des chercheurs dans leurs mesures et puis des sujets dans leurs ressentis vis-à-vis des phases de la Lune. C'est très important, car l'absence de neutralité est la principale source de biais dans ce type d'expérience. Et enfin, tout le monde peut vérifier les calculs réalisés a posteriori par l'équipe du docteur Cajochen, qui a été le premier surpris par les résultats obtenus.
Comment on peut expliquer ça alors ?
Alors, on pense à la gravité lunaire façon marée, mais c'est très très improbable. En revanche, celle d'une horloge biologique qui serait calée sur le cycle lunaire de 28 jours n'est pas absurde. Après tout, la visibilité nocturne permise par la pleine lune a pu avoir un impact important pour la sécurité ou le succès de la chasse chez nos ancêtres lointains. Mais pour autant, je pense vraiment que les loups-garous n'ont jamais existé.
Merci beaucoup. Merci Dominique Dupagne. Chronique à réécouter sur franceinter.fr. C'est terminé pour notre Tête au Carré. Merci à Thierry Dupin qui assurait la programmation musicale de l'émission. Dans un instant, vous retrouverez Fabrice Drouel avec Affaires Sensibles. Et demain, vendredi, ce sera le club des Têtes au Carré. Bon après-midi à tous et à demain.